France Culture.
France Culture, être et savoir. Louise Tourelle.
Bienvenue dans Être et savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, le mercredi en direct ou en podcast. Aujourd'hui, nos enfants après l'IA, pourquoi et comment apprendre, quid de la curiosité. Puisque les intelligences artificielles génératives, ou si vous préférez les systèmes informatiques dédiés au langage, à l'image, à la musique, miment des actions humaines à une vitesse stupéfiante, elles posent forcément moult questions à l'éducation. Au-delà de faire le travail scolaire ou de juste demander de l'aide à une IA, et nous reviendrons sur les usages des élèves, qu'est-il en train de nous arriver, d'arriver à nos enfants pour ce qui touche au langage, à la créativité? Qu'advient-il de leur curiosité? Bref, les IA nous dépossèdent-elles de l'envie d'apprendre ou nous propulsent-elles dans un monde où nous gagnerions du temps pour faire des choses vraiment intéressantes? Mais...
c'est difficile d'avoir un point de vue maintenant parce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui évolue très très vite. Donc ce qu'on pense maintenant pourrait être totalement différent dans quelques mois.
Cet épisode sur l'IA vient après d'autres numéros sur le sujet, sur l'écriture et auparavant sur les usages des enseignants des intelligences artificielles. On investigue donc un phénomène récent, comme le souligne cet étudiant. On entendra d'autres voix d'étudiants dans cette émission. Et intriguant ce phénomène par sa vitesse, d'après Wikipédia, et je fais référence à cette plateforme à dessin. ChatGPT, par exemple, fut lancé en novembre 2022. Cet étudiant était en seconde et elle a bénéficié aussitôt d'une large exposition médiatique.
Écrit un reportage sur ChatGPT.
Plus d'un million d'utilisateurs ont déjà posé leurs questions à une application nommée ChatGPT, la nouvelle intelligence artificielle en libre accès depuis le 30 novembre dernier.
Bonsoir et bienvenue dans notre émission de ce soir. Nous allons vous parler d'un sujet qui passionne de plus en plus de monde, le ChatGPT. Il est capable de communiquer de manière fluide et naturelle comme s'il s'agissait d'un humain.
ChatGPT est un robot capable de tenir une conversation et de progresser.
5 jours seulement après son lancement, ChatGPT atteint 1 million d'utilisateurs dans le monde. C'est un record.
Est-ce que ça paraît loin? Je ne sais pas. Je vous laisse juger, chers auditeurs. Bonjour, Cédric Naudet.
Bonjour.
Vous êtes enseignant, chercheur en sciences de l'éducation à l'INSPE Créteil, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. On le rappelle, rattaché pour cet INSPE à l'Université Paris-Est Créteil, membre de l'équipe éducation et scolarisation. ESCOL, c'est un laboratoire bien connu. Cédric Naudet, vous avez publié récemment un article, l'usage de l'intelligence artificielle générative au lycée, un révélateur des inégalités socio-scolaires. Et vous avez publié un ouvrage sur l'explicitation en géographie aux presses universitaires de Rennes. Moi, ça m'intéresse toujours beaucoup, la géo. Mais d'abord, il n'y a pas beaucoup d'études en France sur l'usage des élèves de l'IA.
Non, tout à fait. C'est vrai que ces études, en fait, pour l'instant, sont assez balbutiantes. Il y a peu de choses qui se font et c'est surtout de la littérature internationale qui existe.
Anna Lombert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, maîtresse de conférences à l'Université Paris 8, spécialiste des enjeux politiques et culturels des technologies numériques et donc de l'intelligence artificielle. On met toujours des petits guillemets parce qu'on n'aime pas trop cette appellation. D'ailleurs, votre ouvrage s'appelle « De la bêtise artificielle ». Il a été publié chez Alia en 2025. Ce n'est pas la première fois que vous venez sur France Culture. Si je vous invite, moi, c'est parce que dans ce livre, pour moi, il est question d'éducation.
Oui, tout à fait. Mais il est question de ce que ces dispositifs technologiques, algorithmiques, numériques font à nos esprits et à nos milieux symboliques, à nos milieux culturels. Donc, a fortiori, oui... comment tout ça transforme la diffusion des savoirs, la transmission des savoirs et donc l'éducation.
Et notre regard sur cette transmission, nos inquiétudes aussi, vous faites référence dès le début du livre à une vieille inquiétude, je crois qu'on peut dire que c'est une vieille inquiétude, puisqu'on fait référence à l'Antiquité, à Platon, à une vieille inquiétude, et Platon fait référence à l'écriture pour dire que voilà, on est dépossédé à ce moment-là, peut-être les apprenants. Les disciples sont dépossédés de quelque chose qui a trait à leur mémoire et que finalement, ça résonne vraiment, vraiment très fort avec nos inquiétudes d'aujourd'hui. Donc, vous faites référence à plusieurs textes de Platon, le Protagoras, mais pas seulement, des dialogues aussi de Phèdre.
Oui, tout à fait. Je fais référence notamment à ce dialogue qui s'appelle le Phèdre, dans lequel Platon s'intéresse aux enjeux de l'apparition de la technique de l'écriture alphabétique pour justement la transmission des savoirs et surtout la pratique, l'exercice de la mémoire. Et ce que remarque Platon, c'est que à travers ces supports techniques que sont les supports écrits, eh bien, il devient possible d'extérioriser toutes sortes de connaissances, toutes sortes de savoirs, mais que cette extériorisation des savoirs, eh bien, elle pose question parce que potentiellement les citoyens vont déléguer en fait leur capacité de se souvenir, leur capacité à mémoriser à des supports écrits, en se disant bah finalement, je n'ai plus besoin de retenir par moi-même, je n'ai plus besoin d'exercer moi-même ma mémoire puisque un support écrit, une technique d'écriture va me permettre de retenir d'une certaine manière à ma place. Donc ce n'est plus moi qui vais me souvenir, c'est le support qui va se souvenir. Et en fait, je reprends un petit peu ces questions mobilisées par Platon pour essayer de les appliquer, entre guillemets, aujourd'hui, aux supports technologiques qui sont les nôtres, qui sont plus liés à l'écriture alphabétique seulement, mais à l'écriture numérique, au code informatique, aux algorithmes, en disant, finalement, avec ces dispositifs comme ChatGPT, donc ces systèmes d'intelligence artificielle générative, on est face à des sortes de machines d'écriture automatisées, qui génèrent du texte automatiquement. Et donc, ce qu'on va abandonner, c'est plus seulement nos capacités mémorielles, nos capacités à nous souvenir, mais aussi nos capacités expressives, nos capacités à nous exprimer. C'est-à-dire que le risque, en fait, c'est de dire, finalement, j'ai une machine qui est capable de s'exprimer à ma place, donc je vais lui déléguer ma capacité d'expression. Or, le problème, c'est que lorsqu'on s'exprime, il y a toutes sortes de facultés psychiques ou de capacités cognitives, comme on dit aujourd'hui, qui sont mobilisées. Donc, par exemple, la mémoire, parce que quand je m'exprime, il faut que je me souvienne. Moi, il faut que je me souvienne de ce que j'ai écrit dans mon livre pour pouvoir vous en parler, etc. C'est pas toujours facile. Et puis, il y a aussi la capacité d'imagination, parce qu'il faut viser un sens. Il faut imaginer son interlocuteur. Il faut imaginer un petit peu se mettre à la place de l'autre. Vous voyez, quand on s'adresse à l'autre, etc. Et donc, toutes ces capacités mentales-là, en fait, le risque, c'est qu'on ne les exercent plus, en fait, un peu comme le disait Platon au sujet de la mémoire, qu'on les délègue à un dispositif technique et qu'on cesse de les exercer, de les pratiquer. Or, toutes ces capacités, il faut bien se souvenir, puisqu'on parle d'éducation, que ce ne sont pas des capacités innées, en fait. La mémoire, l'imagination, l'empathie, tout ça, ce sont des capacités mentales qui se forment et peuvent se déformer et que l'éducation a pour fonction de former.
Il y a deux mots qui m'intéressent, c'est la mémoire révisée et puis le fait de viser, de parler à destination de quelqu'un. Cette question du langage, elle vous a énormément intéressée, Anna Lombré. Je voulais vous faire écouter le témoignage d'un autre étudiant. Donc j'en ai interviewé plusieurs. Ils sont intéressants, ces étudiants de première année à l'université PSL, parce que ils étudient l'informatique, le code, les algorithmes et aussi la littérature et l'histoire de l'art. C'est un cycle pluridisciplinaire. Et donc, Damien parle du langage. Il parle du langage de l'expression en français, mais aussi en anglais. Et c'est assez intéressant.
Il y a des figures de style qui reviennent tout le temps chez ChatGPT que très peu de gens n'utilisent autrement. Je dis encore une fois en anglais. Par exemple, dire « c'est telle chose, it's this, not that, or this, m dash, not that ». Énormément de juste petites contradictions juste après pour donner une espèce de style assez éloquent à la phrase, sauf que ça se remarque immédiatement et ça se remarque très facilement que c'est un texte généré par IA. Je vois aussi des créateurs qui sont vérifiablement des humains qui parlent par vidéo utiliser ces figures de style, et quand je le vois, je me dis il y a quelqu'un qui a eu besoin de l'IA pour écrire son script, ça me dérange un peu en général. Il y a pas mal de figures de style qui se retrouvent assez facilement. Ça appauvrit dans le sens où ça standardise, c'est-à-dire que ça... Il y a cette espèce d'homogénéité dans tout le discours qui est généré par IA, que quel que soit le sujet, quelle que soit la langue, et ça donne un peu l'impression que c'est une seule personne ou une seule éducation qui entraîne tous ces discours sur toutes ces choses différentes, et je trouve que ça, c'est assez décevant parce que on voit des textes qui a moins d'originalité, et je me demande si des gens, en voyant pas tout ce texte assez uniforme, assez généré par IA, aussi s'appauvrissent eux-mêmes en reprenant ces figures de style eux-mêmes. J'ai vu notamment des amis, sans utiliser vraiment de l'IA, qui parlent anglais un peu moins, parler anglais dans un anglais très très ChatGPT. Ça m'inquiète, alors c'est pas le plus grand problème au monde, mais c'est quelque chose que je remarque.
Donc les étudiants le remarquent, les lycéens aussi, je pense, parce que les jeunes sont pas les moins informés hein, sur ces sujets. On va avoir l'occasion de le redire. Bah, un petit commentaire à Lambert sur ces propos.
Oui, bah c'est très juste. Moi, c'est ce que j'essaye de décrire de manière un peu différente dans mon livre, en réalité. Donc il y a deux choses qui me semblent très importantes ici. La première chose, c'est l'influence en fait du langage automatiquement généré sur le langage humain. C'est-à-dire le fait qu'il y a certaines figures de style, comme l'étudiant les appelle ici, c'est-à-dire certaines expressions, certaines catégories qui vont être très fortement mobilisées par ces machines statistiques et qui vont ensuite contaminer, entre guillemets, bien sûr, notre manière de parler à nous. C'est-à-dire que nous allons nous mettre à parler comme ChatGPT, comme Grok, etc. Et ça, c'est potentiellement très dangereux parce que nos catégories de langage sont nos catégories de pensée. C'est-à-dire que la manière, les concepts que vous mobilisez pour parler, ce sont aussi les catégories qui vous permettent de comprendre le monde qui vous entoure. Vous voyez ? Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement l'exercice d'une forme d'influence ou de pouvoir idéologique par les entreprises privées qui possèdent ces dispositifs-là sur nos manières de parler et donc nos manières de penser. Et la deuxième chose qui me semble très importante dans ce qu'a dit cet étudiant également, c'est la question de l'uniformisation. C'est-à-dire le fait que comme ce sont des dispositifs statistiques, en fait, ils font des calculs probabilistes sur des quantités massives de données et ils renforcent évidemment les moyennes, ils renforcent en fait les expressions qui sont majoritairement utilisées. Donc par exemple, si vous avez une expression très rare, elle est très peu représentée dans les jeux de données sur lesquels sont entraînés les modèles de langage et donc en fait, elle est très peu mobilisée par les différents systèmes d'IA génératifs, puisqu'ils font des calculs statistiques. Donc, plus une expression est utilisée, plus elle va être mobilisée, si vous voulez. Ça amplifie les moyennes. Et donc ça, c'est un risque d'uniformisation et de standardisation de nos pratiques linguistiques.
Mais est-ce que ça ne fait pas éclater des phénomènes qui existent tout à fait déjà ? Et vous parlez de la radio, Anna Lambert, dans votre ouvrage à plusieurs reprises. Vous parlez également, mais un peu moins, de la télévision. C'est-à-dire que l'uniformisation, elle est aussi présente depuis longtemps, elle influence nos manières, enfin il y a une uniformisation de nos manières de parler, donc déjà la perte des accents régionaux, pas complètement mais largement, la manière aussi de présenter les choses. On dit que dans les médias, on a un peu tous les mêmes tics de langage. D'ailleurs, on publie sur Radio France des vidéos où les producteurs, productrices, journalistes expliquent qu'ils ont aussi parfois des tics de langage, qu'ils cherchent à les éviter parce que cette standardisation, finalement, elle est déjà assez largement, elle pèse largement sur nos manières de nous exprimer et peut-être de penser.
Alors oui, vous avez tout à fait raison et je pense qu'en fait ce phénomène d'uniformisation, de standardisation, il faut le réinscrire, c'est-à-dire dans une sorte de continuité historique. Mais je pense néanmoins qu'il ne faut pas négliger, si vous voulez, les changements d'échelle, les changements quantitatifs qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui peuvent, si vous voulez, conduire à des changements qualitatifs. Donc je m'explique. En fait, aujourd'hui, vous avez finalement quelques entreprises privées qui vont développer des services numériques d'IA générative qui vont dominer en fait le marché. C'est lié à une structure économique en fait d'entreprises qui sont quasi monopolistiques parce qu'il faut investir énormément de capitaux pour pouvoir développer ce type de système qui implique aussi, hein, je le rappelle, des infrastructures matérielles très importantes, etc. Et donc on va avoir la domination de quelques entreprises privées sur le langage d'une très grande partie de la population, vous voyez. Et ça, c'est potentiellement très dangereux. Alors que, disons, que les échelles étaient très différentes du temps des médias, on va dire, radiophoniques ou télévisuels. Déjà parce que, bon, ces médias étaient en général inscrits au sein de certaines frontières nationales, donc il y avait quand même des différences idiomatiques. Et puis aussi parce qu'on peut imaginer qu'il y ait des radios, des télévisions locales. Et là aussi, notre devoir, c'est d'imaginer finalement des modèles de langage alternatifs, des modèles de langage locaux, diversifiés, qui puissent en fait permettre cette diversification des langues, en réalité. Mais en l'état actuel des choses, je crois qu'on va plutôt dans la direction inverse.
Alors, parlez pas trop au passé, hein, quand vous parlez des médias radio, par exemple, et les succès d'audience prouvent qu'on peut parler au présent pour les radios de service public et France Culture, évidemment. Cette standardisation fait partie, de mon point de vue, de la demande scolaire, hein, parce qu'il y a des normes à respecter dans les écrits et même les oraux scolaires. On va s'intéresser aux usages des élèves, qui sont très, très contrastés, suivant l'origine sociale et le niveau scolaire, comme nous l'explique Lucie.
En venant de Valenciennes et en ayant fait toute ma scolarité à Valenciennes, quand l'intelligence artificielle elle est arrivée, les gens s'en servaient beaucoup plus, mais je pense que c'est aussi lié au fait que les gens étaient moins favorisés à Valenciennes. Il y en a beaucoup qui étaient au lycée parce qu'ils n'avaient pas le choix et pas par envie d'apprendre, parce qu'on leur avait pas forcément transmis cette envie aussi. Ils n'avaient pas forcément de poursuite en tête après le lycée. Donc on s'en servait beaucoup, mais surtout pour le contrôle continu, parce que les gens ont tendance à penser qu'on s'en sert pour tricher lors des épreuves, alors que je trouve que les jeunes, ils s'en servent plus quand on a des devoirs maison, par exemple, parce que ben, comme c'est fait à la maison, ils ne peuvent pas vérifier si on s'en sert ou pas. Et du coup, ça rajoute des points dans notre moyenne scolaire qui va compter pour le bac au contrôle continu. Donc je trouve que c'est surtout dans cette partie-là que les gens, ils s'en servaient.
Les profs ne le voyaient pas?
Bah, ça dépendait des matières. En mathématiques, c'est des formules. Donc, si jamais c'est les formules qui correspondent à ce qu'on a vu en cours, généralement, les gens, ils étaient malins. Ils rentraient sur un prompt où ils expliquaient en quelle classe ils étaient, quelle spécialité, quel chapitre ils avaient déjà fait, pour être sûr justement de pas se faire prendre en flagrant délit, de triche. Mais je sais que nous, on s'en servait beaucoup en mathématiques pour justement bah, les questions de devoir maison. En informatique aussi, parce que j'ai suivi la spécialité NSI, donc numérique sciences informatiques, où là, pareil, pour le code, bah, ça se voyait pas vu que de toute façon, c'était tapé à la machine. Et après, je sais qu'en philosophie, on s'en servait beaucoup, mais c'était bien plus compliqué de pas se faire prendre en philosophie parce qu'il fallait rentrer les philosophes qu'on avait vus dans le chapitre pour éviter d'avoir des idées d'autres philosophes. Donc les gens, ils s'en servaient quand même moins en philosophie parce que c'était plus compliqué dans les matières littéraires. Je comprends la crainte des adultes parce que c'est quelque chose qui est arrivé d'un coup, en fait. Et nous, ça a été dans notre quotidien, mais en étant jeunes. Donc on s'est acclimaté, on a pris possession de cette technologie-là, alors que les adultes la comprennent pas forcément de la même manière.
Et oui, on ne la comprend pas forcément de la même manière, mais tout de même, on cherche à comprendre. Et c'est bien ce qu'on fait dans cette émission, Lucie, donc qui tape à la machine. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Cédric Naudet, votre étude, elle a concerné 1300 élèves dans un lycée polyvalent. Ça veut dire un lycée avec des classes technologiques, des classes générales. Donc ça mélange aussi des élèves de profils variés. Mmh. Qu'est-ce que vous avez voulu faire, si vous voulez nous présenter en quelques mots, et puis après on va se dire ce que vous avez trouvé.
Oui, voilà, moi ce que j'ai essayé de mettre en évidence, c'est que finalement l'IA générative, c'est aussi un miroir grossissant des rapports au savoir. Ce qui m'a intéressé en fait, c'est pas de dire si l'IA est bonne ou mauvaise, mais de regarder comment les élèves s'en servent concrètement. Et donc dans mon étude, donc menée comme vous l'avez dit dans un lycée, j'ai diffusé d'abord un questionnaire pour essayer justement de voir l'ampleur de cette utilisation, et le questionnaire a montré que les trois quarts des élèves s'en servaient. Alors pour certains, 46%, c'était vraiment de façon très quotidienne. Et puis dans un deuxième temps, donc j'ai mené 26 entretiens pour justement aller du côté de ce rapport au savoir. C'est-à-dire que j'étais dans un dispositif particulier, propre à ce lycée, où les élèves avaient la possibilité de faire le travail hors la classe. C'est vraiment un dispositif assez unique. Donc, le travail hors la classe, sous la supervision d'un adulte. Et ça m'a donné accès, du coup, à la façon dont ils pouvaient utiliser l'intelligence artificielle générative pour le travail hors la classe. Et voilà, ce que j'ai pu identifier, c'est qu'il y a finalement trois grands profils d'usagers. Le premier, c'est les engagés réflexifs, c'est-à-dire des élèves qui vont utiliser l'IAG comme un levier cognitif, c'est-à-dire vraiment pour structurer leurs pensées, reformuler des idées et approfondir des notions.
Ça, ce sont les bons élèves.
Alors effectivement, si on se place du côté du rapport au savoir, c'est des élèves qui socialement situés, c'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, ces élèves ont déjà compris les codes de l'école et donc sont en capacité justement de comprendre les exigences invisibles, pour reprendre les termes de propres à notre équipe et plus particulièrement travaillé par Julien Néther quand il parle de curriculum invisible. L'idée sur laquelle...
Parce que tout le monde ne connaît pas, donc je vous arrête une seconde, le curriculum caché. Oui. Ce sont l'ensemble des savoirs que possèdent en général les bons élèves qui sont communiqués parfois de manière très infra par la famille. Par exemple, savoir prendre la parole au moment ad hoc, être silencieux quand il faut l'être, un certain savoir-être, un certain rapport aux enseignants, au savoir tout court.
Oui, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup travaillé dans l'équipe de recherche ESCOL, et donc ces implicites vont entraîner des malentendus. Mais ce que j'ai pu montrer, effectivement, ce que je démontre à l'aide des verbatims et donc des entretiens que j'ai pu mener, c'est que les élèves finalement engagés réflexifs sont ceux qui sont en capacité justement de transformer les réponses de l'IAG et d'en faire un outil d'apprentissage. C'est donc la première catégorie. La deuxième, c'est les occasionnels légalistes. c'est-à-dire des utilisateurs plus prudents qui vont mobiliser l'IAG de manière ponctuelle dans des recherches d'informations, de l'aide à la reformulation, mais qui sont surtout, eux, attachés au respect des règles par la crainte de tricher. Et puis, le troisième profil, c'est les scolaires opportunistes, c'est-à-dire des élèves qui voient l'IAG comme un outil de réponse immédiate, sans distance critique. Et pour eux, c'est une solution pour contourner les difficultés, souvent par manque de maîtrise des attentes scolaires implicites.
Ce qui peut engendrer encore davantage de malentendus autour de la demande scolaire.
Tout à fait, puisque c'est surtout ces élèves-là qui vont être pris la main dans le sac. C'est-à-dire vraiment, souvent, quand il y a une triche, c'est-à-dire qu'ils vont recopier sans distance réflexive et qui vont effectivement utiliser des tournures de phrases qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser. Et les professeurs, évidemment, s'en rendent immédiatement compte.
Et là, on touche à la notion de capital numérique. Je crois qu'elle est très importante. Dans votre ouvrage, Anna Lombert, vous parlez de capital culturel. Et vous parlez aussi de Bourdieu sur la misère symbolique, qui était une formule à l'endroit de la télévision et des symboles qui circulent. Mais cette question de capital numérique, elle m'intéresse parce que finalement, savoir prompter, c'est très très compliqué, c'est-à-dire savoir s'adresser à la machine. C'est-à-dire savoir vraiment ce qu'on cherche. C'est quand même déjà une relation assez sophistiquée, finalement, à ce que c'est qu'apprendre.
Oui, alors, disons, pour nuancer un petit peu, je dirais qu'effectivement, on peut, rédiger, entre guillemets, des prompts, des instructions, des commandes, de manière assez basique, assez simple. Mais si on veut obtenir un résultat satisfaisant pour un objectif précis, bah bien sûr, il va falloir complexifier et puis acquérir peut-être aussi de nouvelles compétences pour pouvoir justement rédiger ces instructions ou ces commandes de manière adéquate. Mais il me semble, moi, que si vous voulez, la question des enjeux de ces IA génératifs pour l'éducation, elle se pose au-delà du simple prompt. Au sens où, même si vous savez très bien prompter, le risque, c'est que vous ne compreniez pas ce qui se passe à l'intérieur de la machine, d'une certaine manière. C'est qu'en fait, vous soyez dans une position de consommateur où vous demandez quelque chose au dispositif, donc vous le demandez très bien, ça d'accord, et vous obtenez un résultat. Mais en fait, ce résultat, il demeure complètement extérieur et étranger à vous, puisque vous ne savez pas comment il a été produit. C'est-à-dire qu'en fait, pour produire un tel résultat, le dispositif algorithmique, c'est basé sur un certain jeu de données. Vous ne savez pas quelles sont les données. Il a effectué un certain nombre de calculs. Vous ne savez pas du tout comment ces calculs fonctionnent. Et puis surtout, il a été entraîné selon certains critères qui impliquent évidemment des biais idéologiques éventuellement. Et vous ne savez pas selon quels critères il a été entraîné. Donc en fait, je parlais de misère symbolique, donc en reprenant effectivement cette notion de capital symbolique de Bourdieu puis misère symbolique de Stigler, qui tous deux mobilisaient surtout cette notion pour parler de la télévision effectivement. Mais moi, j'essaye justement de la mobiliser pour parler de ce qui se joue aujourd'hui avec ces IA génératives, qui sont de nouvelles machines symboliques d'une certaine manière. Et je disais, y a misère symbolique au sens où, finalement, ceux qui promptent ne sont pas forcément ceux qui produisent les symboles. Parce que les symboles qui ont été produits, que ce soit du texte ou des images, ils ont été produits aussi en fonction des jeux de données, en fonction des modèles, en fonction des critères d'entraînement. Et toutes ces dimensions-là, c'est des dimensions qui nous demeurent cachées à nous, consommateurs de ces technologies, vous voyez ? Donc finalement, c'est le résultat de ChatGPT. Est-ce que c'est mon expression symbolique à moi, Anna Lombert, ou bien est-ce que c'est l'expression symbolique de l'entreprise XAI ou OpenAI qui a décidé sur quelles données la machine serait entraînée, comment est-ce qu'elle serait entraînée, selon quels critères, et puis avec quels algorithmes, etc. etc. D'où l'importance, je crois, d'une part de la transparence de ces modèles, c'est-à-dire du fait que nous puissions savoir en fait quelles sont les données, quels sont les algorithmes, quels sont les critères d'entraînement, et puis aussi de l'accès aux sources, pour pouvoir en fait se réapproprier un petit peu ces contenus symboliques qui sinon, ont valeur plutôt sont plutôt produits selon les critères des entreprises privées qui possèdent ces technologies que selon nos mémoires individuelles ou collectives, locales, singulières.
Donc ça pourrait nous amputer d'une forme de jugement ou de
participation à notre milieu symbolique. Oui, tout à fait.
Ce qui pose une vraie question démocratique. Alors je reviens, et si vous voulez commenter, ne vous en privez pas, hein, Cédric Naudet, à vos catégories. Je pense que pour la première catégorie d'élèves, ceux qui sont bien à l'aise et bien conscients, tout ça... ils peuvent le comprendre parce que on sait que les jeunes sont pas spécialement plus en retard que les adultes, entre guillemets, sur ces sujets-là. On le voit avec la question des réseaux sociaux. Ils s'apprennent beaucoup entre eux. C'était souligné dans un récent article du Monde qu'on citera en bibliographie, hyper intéressant, sur les réseaux sociaux et les jeunes. Mais sur la deuxième catégorie, les légalistes, ceux qui s'en servent pas, n'y a-t-il pas aussi parmi eux des élèves qui finalement, face à l'avalanche de données, parce que c'est quelque chose que des enseignants m'ont dit, quand on demande à un modèle langagier de faire de rédiger sa dissertation, on a très vite un texte très long auquel on comprend pas forcément tout, vous l'avez dit, et qu'il semblerait très long de corriger et même de lire. Est-ce que ça, on vous l'a dit? Parce que moi, des professeurs et des élèves me l'ont dit.
Je dirais, ça serait pas forcément la deuxième catégorie, les occasionnels légalistes. Là, ça, je pense, ça fait plus écho aux scolaires opportunistes qui, effectivement, eux, vont utiliser des termes qu'ils n'utilisent pas dans leur vie courante. Oui, ce serait plutôt ces élèves-là, parce que les légalistes, eux, je pense qu'il y a vraiment une question dans les verbatims que j'ai pu utiliser, c'est des élèves qui ont vraiment une conscience du fait que les intelligences artificielles génératives n'est pas un outil justement avec toute cette dimension éthique, mais aussi cette dimension au rapport au travail scolaire, vraiment d'une forme de triche et d'une volonté de montrer ça en fait.
Alors on y reviendra peut-être au travail scolaire qui peut aussi parfois être un travail plaisant, enfin c'est pas la représentation qui circule le plus, mais tout de même, en tout cas, un travail dont pourrait nous priver l'IA. Vous citez une étude du MIT pré-publié en 2025, Anna Lombert, qui indique que il y aurait une baisse des capacités cognitives de la connectivité cérébrale. J'adore répéter ce genre de termes. Moi aussi, je répète des termes avec lesquels je suis pas hyper à l'aise parfois, avec l'usage de l'IA. On perdrait, mais ne l'a-t-on pas dit aussi pour Google, par exemple, qu'on utilise désormais tous tout le temps, et même de Wikipédia, dont vous dites que c'est plutôt un bon modèle puisqu'il est collaboratif. Alors, est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur cette étude ?
Oui, tout à fait. Et puis peut-être sur la différence aussi que j'essaye de faire entre des outils comme ChatGPT et puis des dispositifs comme Wikipédia. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Ces termes, nous aussi, nous répétons beaucoup de termes. Et moi aussi, ces termes de connectivité cérébrale et d'amplitude cognitive qui sont mobilisés dans cette étude, ce sont vraiment pas les miens. C'est pour ça que je les cite entre guillemets. Mais bon, ma foi, ce sont ceux de l'étude. Donc, je voulais pas retrahir la pensée. Mais en fait, si vous voulez, ce qui m'a semblé intéressant, c'est que cette étude du MIT montre que il y a certaines zones de notre cerveau en fait qui ne sont pas mobilisées quand nous utilisons donc en l'occurrence c'est le dispositif en question, le service en question, c'est ChatGPT, et donc il montre que il y a certaines zones du cerveau qui ne sont pas mobilisées et que ces zones du cerveau sont celles qui sont associées en général à ce qu'ils appellent donc l'intégration sémantique et l'idéation créative. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est en fait la compréhension du sens et la production du sens, hein, si j'ai bien compris. Et si vous voulez, l'enjeu, c'est que quand ces personnes qui ont beaucoup utilisé ChatGPT sont privées de leur prothèse cognitive, d'une certaine manière, c'est-à-dire quand on leur demande d'écrire sans ChatGPT, eh bien, elles vont avoir beaucoup plus de difficultés à remobiliser ces zones cérébrales que les personnes qui n'ont pas utiliser ce service. Donc ça montre, et l'étude parle de dette cognitive, en disant, bah, finalement, on est en dette cognitivement par rapport à la machine qui nous sert de prothèse cognitive, d'une certaine manière. Et donc, si vous voulez, le risque, c'est celui de la dépendance technologique. Et donc, vous avez tout à fait raison de dire que cette dépendance technologique, elle n'est pas nouvelle, puisque nous ne pouvons exercer nos capacités cognitives qu'à condition d'avoir un certain nombre de prothèses. Moi, je ne peux pas penser si j'écris pas, par exemple, si j'ai pas un stylo, un papier, etc. Et je ne sais pas si je ne peux pas lire, donc si je n'ai pas de livre, si je ne peux pas écouter la radio, etc., etc. Donc en fait, nous sommes toujours prothétisés cognitivement. Mais la différence ici, c'est que ces zones cérébrales-là, c'est celles qui sont associées à des capacités quand même très fondamentales de compréhension et d'expression. Et puis, surtout, que ces dispositifs, pour l'instant, sont gratuits. Je le dis entre guillemets, parce qu'en réalité, ils sont gratuits parce que nous donnons beaucoup de données. Mais ils pourraient aussi bientôt devenir payants. Et on sait que les services gratuits d'IA générative sont de très moins bonne qualité que les services payants, les abonnements, etc. Donc ça pose aussi toutes sortes de problèmes en termes d'inégalités économiques qui vont se refléter ensuite, devenir des inégalités culturelles et cognitives. Et donc cette dépendance technologique-là, moi, elle me semble extrêmement dangereuse, d'autant que je rappelle que ces dispositifs sont aussi conçus pour nous rendre dépendants. C'est-à-dire que un dispositif comme ChatGPT, quand vous lui posez une question, il va vous sortir toutes sortes de réponses diverses et variées, et puis il va vous relancer à la fin pour savoir si vous voulez pas continuer un petit peu à dialoguer. Il va parler à la première personne du singulier, ce qui est très trompeur, parce que du coup, il y a des personnes qui vont croire qu'il y a en fait un humain derrière
parce
la machine.
Il y a une sorte de puissance de projection.
Exactement, il y a des projections de anthropomorphiques. Donc du coup, il y a des jeunes qui vont par exemple s'attacher à leur chatbot, tomber amoureux de leur chatbot, etc. Et ça, ça peut créer toutes sortes, ça peut exploiter toutes sortes de vulnérabilités psychologiques, et ça peut être très dangereux. Et donc on parle beaucoup aujourd'hui des risques, on va dire, psychiques et cognitifs des réseaux sociaux, mais il y a aussi des risques psychiques et cognitifs qui sont liés à ces IA génératives. Par exemple, je crois qu'on devrait faire très attention et éviter qu'elles emploient la première personne du singulier, parce que ça peut être très dangereux, ça entretient justement des formes d'attachement émotionnel à ces dispositifs qui, je le rappelle, sont des services développés par des entreprises privées.
Parce que je voudrais enchaîner sur cette question de la merdification, c'est un terme que vous employez, mais ils peuvent, ces services, complètement changer avec le temps. On en avait parlé avec un autre philosophe, Pascal Chabot, quand on avait parlé de l'écriture, d'écrire, continuer à écrire avec ou malgré les intelligences artificielles génératives. Ce sont beaucoup des philosophes qui s'intéressent à ces sujets et aux dangers éventuels de l'IA. Pas que des dangers, peut-être, mais pas mal de dangers. Et donc, le fait que des systèmes de langage deviennent payants, en ayant peut-être baissé nos capacités ou celles de certaines personnes, peut-être pas que des jeunes, d'ailleurs. Autre question, la curiosité. Parce que quand on a des réponses très rapidement, est-ce qu'on se pose encore des questions? En tout cas, je me le suis demandé avec Jean-Pierre Martin, qui est écrivain, essayiste, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et professeur émérite de littérature à Lyon 2. Il avait publié un essai sur la curiosité, une raison de vivre chez Autrement. C'est un livre que j'adore. C'était en 2019, il était venu dans Être et Savoir, et là, il était de passage à Paris. On a passé pas mal de temps ensemble, on a discuté de plein de choses, notamment du langage et bien sûr des effets des IA génératifs sur la curiosité.
La curiosité, c'est l'art des questions, par excellence. C'est l'art du questionnement. C'est un désir existentiel. C'est un désir, vital, qui embrasse la curiosité cognitive au sens précis du terme, qui la dépasse. Il s'agit en quelque sorte de sortir de soi, d'aller à la rencontre de l'autre, des autres. L'autre, ça peut être un livre, un film, n'importe quel objet culturel, mais ça peut être aussi une personne, les autres en général. Donc la curiosité en ce sens-là, c'est le contraire de l'indifférence. C'est même l'antidote de l'indifférence, c'est un amour du monde, c'est une forme d'amitié. J'y vois donc une expérience vitale, presque charnelle, une faculté affective, j'insiste sur le mot, qui relie les êtres humains entre eux, qui produit du dialogue entre des intelligences incarnées, là aussi j'insiste sur le mot, et enfin, ce n'est pas rien, j'y vois la faculté de se déprendre de soi, c'est ce que dit Foucault. Il y a des moments dans la vie où la question de savoir si on peut penser autrement qu'on ne pense se pose. L'intelligence artificielle, au contraire, instrumentalise le questionnement et fait comme s'il y avait une réponse univoque. Elle s'empare de tout. Et donc on est face à une réponse qui emplit, qui considère le savoir comme un empilement, une enfilade de réponses. L'IA est du côté de la réponse, comme si le savoir était fini, exhaustif. Alors les rapports entre la curiosité et l'intelligence artificielle sont des liaisons dangereuses, évidemment. Il y a des contenus cognitifs, sans aucun doute, mais il y a aussi toute une série d'images produites, tout un matériel qui est des contenus cognitifs, comment dire, qui produisent d'abord un effet de serre, pas seulement du CO2, et puis qui produisent de la matérialité aliénante, en quelque sorte. J'emploie ces termes-là. Enfin, le mot, peut-être, qui résumerait ça, c'est peut-être le concept de pratico-inerte, selon Sartre, c'est-à-dire les produits d'une activité humaine qui se retourne contre elle pour lui prescrire des tâches. Ce sont deux régimes attentionnels tout à fait différents. D'un côté, l'exercice de la curiosité, c'est la liberté du sujet. Donc d'un côté, un parcours, un cheminement. De l'autre côté, un espace saturé, indifférencié, des blocs de savoir prémâchés et prédigérés, du tout cuit. Un espace mainstream, non régulé, avec le risque du fake, de la censure. Et surtout, ce qui me semble important, la réduction à minima de l'activité intellectuelle. Et même une façon, quand c'est mal utilisé, d'enlever le goût de cette activité avant même qu'on y soit initié. Et la question, c'est qui va dévorer l'autre ? Est-ce que c'est le léviathan indifférencié de l'IA ou bien la pulsion fragile et sensible de la curiosité ? Et on peut tout de même esquisser une réponse parce que le mouvement est déjà bien amorcé. Les réseaux sociaux n'ont pas, il me semble, tant que ça, stimulé la curiosité. Et on assiste à ce paradoxe. Jamais autant de facilité pour accéder au savoir et jamais autant d'obscurantisme. Les moyens de transmettre la science sont aussi des moyens d'augmenter de façon virale le conspirationnisme, la bêtise grégaire. Donc il y a aussi une bêtise de l'IA.
France Culture, Être et Savoir. Louise Touret.
Et dans ce numéro d'Être et Savoir, on s'interroge sur les effets de l'IA sur nos enfants. Nos enfants, après l'IA, sont-ils dépossédés d'une forme de liberté par rapport au langage avec des modèles qui fonctionnent en circuit fermé, on l'a dit, en répétant un peu les mêmes formules, en donnant à entendre et avoir des arguments un peu prédigérés dont on ne sait pas forcément d'où ils proviennent, de quel modèle de pensée ils proviennent, si on peut parler de modèles de pensée dont on ne sait pas, peut-être pas seulement les élèves et les jeunes d'ailleurs, mais aussi les adultes. Et je me suis demandé d'ailleurs si la curiosité, après avoir écouté Jean-Pierre Martin, elle n'était pas valorisée avec ces questionnements. Alors écoutez Lucie, Rose et Neil, des étudiants de première année à l'université.
Quand on cherche une réponse à une question, souvent on va tomber sur d'autres articles, sur d'autres choses qui vont nous donner envie de regarder plusieurs autres choses. Moi, je sais qu'en arrivant à Paris, si j'avais demandé à ChatGPT de me faire un itinéraire, plutôt que de me balader dans les rues et de découvrir moi-même la ville, j'aurais loupé plein de choses. Parce que c'est les lieux qui sont cultes selon ChatGPT, mais c'est pas forcément les lieux qui seront importants à voir. C'est mieux de le découvrir soi-même, je pense.
Si on demande quelque chose à l'IA, par exemple, je sais pas, si on lui demande une seule information sur un pays, bah ça va juste nous dire ça. Alors que si on Google l'info, bah ça va nous mettre la page Wikipédia du pays. Puis après, on peut regarder aussi la circonférence et plein de trucs. On a plusieurs liens, on a plusieurs pistes à explorer. Donc ça encourage légèrement plus à la curiosité. Alors que l'IA, c'est très compact.
Après, tout dépend aussi de la manière dont on l'utilise. C'est-à-dire qu'on peut lui demander une information très très spécifique, et dans ce cas-là, elle nous donnera la réponse très très spécifique. Mais on peut aussi, si on est toujours curieux, demander « parle-moi de tel sujet général » et peut-être que dans le tas, je trouverai mon information spécifique. Mais il faut pouvoir s'abstenir volontairement de demander directement la question spécifique.
Alors, est-ce que l'IA ne fait pas monter notre niveau d'expertise en recherche de manière peut-être un peu contre-intuitive ? Alors, pas pour tout le monde, peut-être pas pour tous les élèves. Mais au moins, là, ça se voit que l'information, elle nous arrive vite et de manière transformée. Cédric Naudet, donc peut-être on peut parler des élèves experts, un peu comme ceux qu'on a entendus, qui voient un peu plus les ficelles et s'interrogent sur ce qu'on leur donne à lire, et peut-être pas qu'avec ces outils-là, d'ailleurs.
Tout à fait. Donc, les élèves que j'ai pu rencontrer, effectivement, que j'ai qualifiés d'engagés réflexifs, avaient des pratiques où on voyait bien que, pour eux, c'était une manière, d'une certaine façon, de soutenir ou de relancer la curiosité. C'est-à-dire que ils pouvaient utiliser les chatbots comme un tuteur socratique, c'est-à-dire vraiment en attendant de la part du chatbot des réponses à des questions, et donc le chatbot pouvait lui-même derrière les entraîner à expliciter leurs pensées, par exemple. Hein. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi des pratiques qui sont de plus en plus justement développées dans l'éducation nationale. Mais les engagés réflexifs, vont vraiment avoir cette volonté d'utiliser l'IAG comme un point d'appui pour comprendre, comme l'idée qu'ils vont l'utiliser aussi pour faire des révisions, c'est-à-dire par exemple de synthétiser une pensée et puis derrière d'interroger, de faire comme si le chatbot posait des questions comme un prof. Hein, on avait vraiment ces pratiques-là pour ces élèves-là. Et c'est vrai. Du coup, je rebondis peut-être aussi par rapport aux interventions des étudiants et que vous avez diffusées. Moi, ça m'a fait penser aussi à la recherche de Patrick Rayou sur l'autonomie. C'est-à-dire que pour moi, ce terme de curiosité, d'un certain côté, il est aussi
socialement situé
à nouveau et inégalement distribué. C'est voilà ce que montre Patrick Rayou, c'est que l'autonomie, c'est un terme aussi qu'on va beaucoup utiliser à l'école, mais qui fait appel à des savoir-faire, à des savoir-être qui sont socialement valorisés et puis donc qui sont inégalement distribués. Et pour moi, cette curiosité, voilà, la façon dont on peut l'utiliser, comment les étudiants l'ont amené, on est un peu dans ce même type d'idée, quoi. C'est vraiment, on n'attend pas de la part de l'IAG qui développe la curiosité. Vous voyez bien que c'est une manière socialement située d'attendre de ces outils-là, ces choses-là.
Socialement situé, donc comme l'autonomie scolaire, on avait fait un numéro d'Être et Savoir avec Patrick Rayou entièrement sur cette question de l'autonomie qui est absolument passionnante parce que c'est une demande forte qu'on formule aux élèves sans toutefois toujours leur expliquer de quoi il s'agit. Et évidemment, ça les met dans des positions parfois difficiles par rapport aux apprentissages. Mais tout de même, il faut absolument que je reprenne cette formule tuteur socratique. Y aurait-il une maïeutique de l'IA puisqu'on dialogue? Alors, bien sûr, c'est pas avec un philosophe, c'est pas avec Socrate, c'est pas avec une personne, mais on dialogue, et peut-être on dialogue d'abord avec soi-même, parce que ce que je sais, c'est que je ne sais rien, Anna Lombert, et que là, eh bien, on peut s'exercer et faire cette espèce de match avec soi pour essayer ces idées, avoir des réponses et reformuler sa propre pensée, puisqu'il y a bien un individu aussi de l'autre côté de l'intelligence artificielle générative.
Dans une certaine mesure, alors moi j'avoue que j'ai quelques doutes quand même sur cette manière de voir les choses, mais je pense qu'effectivement pour des personnes qui ont, on va dire, des facilités scolaires qui sont, comme vous disiez, socialement situées de telle manière à avoir développé un certain esprit critique, etc. Et puis pour ceux qui ont les moyens économiques d'avoir un abonnement qui fait que les contenus générés par IA qu'ils reçoivent sont très qualitatifs, bon, peut-être que là, on peut avoir ce type d'usage réflexif. Mais dans la majorité des cas, ce que je crains, si vous voulez, c'est la disparition de l'altérité, en fait. Parce que ce que disait le philosophe qu'on a entendu précédemment, c'était que la curiosité, c'est d'abord aussi le désir, disons, d'aller rencontrer de l'altérité, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas nous-mêmes, justement, et qui ne nous renvoie pas simplement un reflet de nous-mêmes, qui oppose de la résistance, qui parfois n'a tout simplement pas envie de nous entendre. Déjà, ça, c'est une première forme de résistance. Est-ce que vous avez déjà vu un chatbot qui, tout simplement, n'a pas envie de vous écouter parce qu'il a envie de dormir, par exemple ? Ça n'existe pas. Donc on est face à des machines qui sont quand même conçues pour être immédiatement disponibles et pour nous apporter des réponses dans l'immédiateté et en général des réponses qui nous confortent dans nos opinions, dans nos idées reçues. Parce que il y a tous ces biais de confirmation qui sont à l'œuvre. Hein, dans ces chatbots, ça a été thématisé, je crois que ça s'appelle la flagornerie, c'est-à-dire le fait que en réalité, les IA génératives s'adaptent à nos demandes et sont toujours dans une sorte de flatterie à notre égard. Et quand bien même nous leur demandons, si nous leur demandons nous-mêmes de ne plus nous flatter, ben en fait c'est encore nous qui l'avons demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, il y a très peu de résistance, il y a très peu d'altérité dans tout ça. Et la curiosité, c'est aussi la capacité tout simplement à se remettre en question. Et on sait à quel point c'est difficile quand on est certain de quelque chose, d'accepter, de se dire non, d'accord, peut-être qu'en réalité, il faut que je questionne cela, etc. Et puis peut-être que pour m'adresser à l'autre, il faut que je reformule ma pensée, etc. Ça, c'est extrêmement difficile. Et avec ce type de dispositif, ben, en général, on est dans une sorte de bulle avec nous-mêmes, justement. Mais le pire, c'est que parfois, on va s'adresser à la deuxième personne du singulier à ces dispositifs, comme s'il y avait quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc, en fait, c'est un reflet algorithmique de nous-mêmes qu'on prend pour quelqu'un d'autre. Donc, moi, j'insiste un peu là-dessus dans le livre, parce que je dis...
C'est l'effet Elisa.
Oui, voilà, c'est l'effet Elisa, c'est qu'on prend, donc Elisa c'est le nom du premier chatbot qui avait été développé dans les années 60, et en fait le fait qu'on prend pour quelqu'un d'autre, ce qui est en fait un reflet numérique de nos propres données, et donc je dis finalement c'est le mythe de Narcisse en fait qui est en train de se concrétiser, parce que Narcisse, qu'est-ce qui arrive à Narcisse? Il voit son reflet dans l'eau et il prend son image pour quelqu'un d'autre, au point d'en tomber amoureux. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'il prend son image et qu'il ne la reconnaît pas comme étant son image, il la prend pour quelqu'un d'autre. Et bien, c'est ce qui nous arrive, en fait, au quotidien, quand nous croyons dialoguer avec quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, nous sommes en train, pas vraiment de dialoguer avec nous-mêmes, mais de nous voir renvoyer une sorte de reflet algorithmique de nous-mêmes, adapté à nos demandes, dans l'immédiateté. Et je pense que ça peut entraîner des comportements sociaux très particuliers, vous voyez, parce que ces machines, fondamentalement, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne des ordres. Alors que l'autre, quand on se rapporte à l'autre, précisément, on ne peut pas se rapporter sur un mode seulement impératif à l'autre, vous voyez.
Mon exemple préféré, c'est celui de l'autre qui a envie de dormir, parce que là, on ne peut plus avoir de projection langagière sur ce qu'il aurait compris ou pas, mais effectivement, d'une altérité qui ne veut peut-être pas nous écouter et peut-être pas nous entendre, et finalement, ça arrive assez souvent, et c'est ça l'effort, le plus grand effort qu'on doit faire, je pense, au quotidien. Anna Lombert, vous parlez aussi du travail, et ça m'a intéressée, parce que finalement, si on se forme, si on s'éduque, ce n'est pas que pour ça, mais c'est aussi pour plus tard travailler. C'est pas la seule façon de prendre sa place dans la société. Et vous citez Marx et finalement ce que c'est que de travailler dans l'industrie. Aujourd'hui, c'est une industrie du langage, du savoir, où certains vont être privés de leur travail, tout simplement, de leur emploi. Mais d'autres vont devoir s'insérer dans ces modèles langagiers qui prolétarisent encore davantage les métiers, y compris les métiers dits intellectuel ou plus ou moins intellectuel. Est-ce que, de votre point de vue, ça peut générer, engendrer quelque chose pour l'éducation? C'est-à-dire, est-ce qu'on va finir par apprendre à se comporter comme ça pour mieux se former dans les métiers à venir, dont on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir?
Oui, alors je pense que peut-être que c'est ce qui va arriver, mais je crois que ce serait un petit peu dommage et un petit peu dangereux, parce que à mon avis, ce qui est très important, c'est de comprendre que l'enjeu pour les citoyens de demain, qui justement ne sont pas seulement des employés, mais aussi des citoyens, c'est de comprendre comment fonctionnent ces technologies. C'est pas d'être capable de les utiliser ou de s'y adapter. Vous voyez, c'est vraiment de comprendre comment elles fonctionnent pour potentiellement aussi en inventer de nouvelles. Parce que si vous vous contentez de prompter, si vous n'apprenez pas à écrire, à lire, etc., eh bien, vous ne pourrez jamais former des mathématiciens qui vont être capables d'inventer des nouveaux algorithmes pour développer de nouvelles technologies numériques. Vous voyez, les personnes qui ont inventé ces technologies, ce sont des personnes qui ont été formées avec les savoirs fondamentaux, qui ne sont pas nées avec ChatGPT entre les mains. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, il y a une vraie nécessité de ne pas négliger cette transmission des savoirs fondamentaux, parce que, comme on l'a dit, et comme votre étude l'a montré, me semble-t-il, c'est seulement à condition d'être capable de maîtriser ces savoirs fondamentaux qu'on peut utiliser intelligemment, entre guillemets, l'intelligence artificielle. Donc moi, je dirais que l'enjeu à l'avenir, ce n'est pas d'adapter les citoyens à ces technologies, mais c'est d'encapaciter les citoyens à comprendre la manière dont ces technologies fonctionnent et comment les transformer pour peut-être en développer d'autres qui soient moins prolétarisantes, justement, mais qui soient plutôt collaboratives, contributives et qui ouvrent de nouveaux possibles.
Et ça, justement, vous y avez réfléchi, Cédric Naudet, avec l'exemple de la géographie. C'est-à-dire, alors c'est un article qui n'est pas encore terminé, mais j'ai pu en lire une première version, et je vous remercie pour cela. C'est comment on peut utiliser des outils de l'IA, qu'on peut aussi transformer, au service d'une discipline particulière. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu cet exemple? En quoi ça peut consister? Est-ce qu'on peut créer des outils pertinents pour apprendre mieux et donner du sens aussi à ces apprentissages?
Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que justement, ce qui m'a intéressé, c'est en partant de la première étude où j'ai pu montrer que c'était inégalement distribué, ce rapport à l'IA, je me suis posé la question de savoir si finalement on ne pouvait pas aider les élèves à comprendre justement comment ça pouvait devenir un outil scolaire pertinent. Et donc voilà, depuis ma discipline de référence, il est possible d'utiliser par exemple un chatbot pour lui faire prendre un rôle spécifique. Et donc, en didactique de la géographie, on travaille beaucoup maintenant à partir justement des rapports au monde des acteurs. Et donc, il est par exemple possible de demander, dans cette perspective, de dialoguer avec le chatbot pour essayer de lui faire prendre un rôle et donc l'interroger sur, par exemple, moi ce que je développe là, l'exemple c'est sur la démographie, d'avoir différents pays, que le chatbot incarne différents acteurs, différents pays, par exemple un démographe allemand, un démographe nigérien, un démographe japonais, et donc par exemple de rentrer en dialogue avec le chatbot pour comprendre les spécificités démographique de ces pays et donc d'entrer en fait de comprendre la logique des acteurs à travers l'interaction avec le chatbot. Donc autrement dit, l'idée justement de savoir de comprendre en réalité les situations des différents pays. Alors voilà, ça rentre aussi dans une volonté derrière qui a été travaillée aussi par notre équipe, hein, notamment par Stéphane Bonnery,
montre sociologue du laboratoire.
Tout à fait. Voilà, je cite beaucoup mon équipe de recherche aujourd'hui. Mais voilà, je suis parti sur le fait que en géographie, il y a beaucoup de documents composites qui peuvent perdre les enfants. Et donc l'idée sur laquelle effectivement chercher des informations dans des doubles pages de manuels, c'est vraiment des choses qui se font beaucoup en géographie, dans les études de cas, et qui peuvent mettre en difficulté un certain nombre d'élèves. Et donc, ça peut être une idée de développer ça en didactique de la géographie, d'utiliser d'autres supports pour justement développer les apprentissages. Voilà. Après, ça rentre dans une logique qui est propre à ce que j'appelle la géographie expérientielle, avec un autre groupe de recherche, le groupe Pensée Spatiale de l'IREMS de Paris, où on s'attache à justement faire que les élèves s'explicitent à eux-mêmes les rapports au monde.
D'accord.
Et donc, on est bien dans cette volonté, toujours, hein, vous voyez que je vous présentais tout à l'heure, c'est-à-dire d'apprendre les élèves, en fait, à utiliser les chatbots de façon pertinente, avec cette volonté de leur faire comprendre que ça peut être un tuteur socratique si on leur apprend à poser les
Mais parce que là, on est dans un circuit beaucoup plus fermé du savoir, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à un ensemble de leçons particuliers, on a rentré ces données-là et on circule à travers les savoirs et les documents du cours grâce au chatbot. On va avoir les cartes, les graphiques. C'est vrai que c'est compliqué la géographie parce qu'il y a à la fois des données très scientifiques, des documents qui vont être plus des documents en sciences humaines. Bon, j'ai étudié la géographie, donc je vois à peu près de quoi vous voulez parler. Et donc c'est un outil de métacognition aussi. C'est-à-dire qu'on comprend ce qu'on est en train de faire avec l'aide de ce robot, mais qui est aussi co-construit avec les enseignants, si je vous comprends bien.
Alors, voilà, mais ça me permet aussi de citer, par exemple, des collègues de mon
équipe
qui travaillent en ce moment justement sur le développement d'outils internes, c'est-à-dire d'implémenter, en fait, plutôt que de partir sur, effectivement, des data centers qui vont avoir tout ce positionnement éthique qui pose problème, d'avoir des intelligences artificielles locales qui permettraient effectivement d'être alimentées par des documents qui seraient décidés par les équipes. Et donc, mon collègue Grégory Quincampoix, qui est spécialiste du numérique à l'INSPE, travaille à développer ces outils-là en implémentant, par exemple, tous les bulletins officiels, les programmes scolaires, et donc d'utiliser, en fait, plutôt que de partir à chaque fois sur des requêtes extrêmement énergivores, de partir en local et de développer donc des chatbots qui soient plus
Il y a pas mal de profs qui le font, qui mettent leurs cours dans un modèle fermé pour que les étudiants puissent s'en servir. Est-ce que c'est pas une opportunité pour les apprentissages? Est-ce qu'on peut, alors la matière est un peu vaste en philo, je sais pas, sur un cours spécifique, imaginez rentrer un certain nombre de textes. On l'avait vu pour les humanités numériques, qu'on trouvait de nouveau des éléments qu'on n'avait pas repérés dans des anciens textes en les numérisant. Et là, c'est donner l'accès à ces données, Anna Lombert.
Oui, tout à fait. Alors, je pense que quand ces dispositifs sont utilisés comme des instruments de recherche, c'est quelque chose de tout à fait différent. Parce que déjà, la première chose, c'est qu'il y a un contrôle sur le jeu de données. Alors après, l'idéal, c'est quand même de ne pas utiliser des modèles de langage qui sont développés par des entreprises privées de la Silicon Valley. Hein. Bon. Mais à partir du moment où vous utilisez un modèle de langage open source, et que éthique, comme on l'a dit, hein, transparent, etc., public éventuellement, ou commun, bon, que vous contrôlez le jeu de données, que vous le nourrissez vous-même avec vos propres données, et que le modèle de langage vous rapporte les sources, si vous voulez, donc vous indique les sources et non pas vous fournit pas une réponse toute faite, mais vous redirige vers telle et telle source, ben là, ça peut être des instruments de recherche absolument fabuleux. Et moi, par ailleurs, je travaille au développement d'un petit outil dans le cadre de l'école universitaire de recherche Artec et du consortium Canva, qui est un consortium avec beaucoup de personnes qui travaillent sur ces questions et aussi sur dans le champ des sciences d'information et de la communication, et qui développe des outils pour faire de la recherche sur des corpus audiovisuels. Et donc, le petit outil sur lequel je travaille, c'est un outil qui a vocation à vous permettre de faire des recherches par mots-clés dans des vidéos ou dans des contenus audio, vous voyez. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ça veut dire que vous pouvez avoir une réception de contenu audio ou de contenu vidéo tout à fait différente grâce à des recherches par mots-clés. Et cela est possible grâce à la transcription automatique de son en texte. Vous voyez, donc là, en fait, on n'est plus sur le modèle du chatbot, parce que je rappelle que l'IA générative ne se limite quand même pas au chatbot. Hein. Le chatbot est un usage, un service possible, mais qu'on peut développer des instruments de recherche absolument formidables grâce à ces technologies, à condition, bien sûr, de ne pas se reposer sur les modèles dominants et sur les services dominants.
C'est vrai que, mais on peut pas parler de tout, on n'évoque pas beaucoup les images hein, dans cette émission, les images générées, comme on dit, par les IA qui sont assez stéréotypées et assez moches, en tout cas pour celles que je repère et qui sont peut-être en train de modifier nos imaginaires. On en voit beaucoup aussi dans les publicités, par exemple, et idem hein, pour les musiques. Alors, vous allez peut-être penser que je suis une indécrottable optimiste, Anna Lombert, mais moi, je m'intéresse aussi au plaisir d'apprendre, et j'en ai parlé avec plusieurs de ses élèves, Lucie, Rose et Neil.
Si je fais une disserte avec l'IA, il n'y aura pas vraiment une satisfaction d'avoir trouvé un plan, d'avoir trouvé des sous-parties, des exemples, des citations, etc.
Selon moi, l'attrait principal d'utiliser son imagination, de créer vraiment quelque chose, c'est la satisfaction de l'avoir créé soi-même. C'est la satisfaction de voir le produit fini et de dire « Ah, c'est moi qui ai fait ça ».
Alors, vous allez peut-être penser que je suis trop naïve, mais quand même, ça nous permet de redire que on est à l'école et on étudie pour faire les choses par soi-même, ce que perdent parfois les élèves de vue aussi. Et ça date de bien avant les IA et de bien avant les moteurs de recherche. Je ne crois pas me tromper, c'est dénoncé... de tout temps, pour utiliser cette expression que vous devez adorer, Anna Lombert, et qu'on trouve dans les dissertes de philo. Alors, je commence avec vous, Cédric Naudet, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais voilà, c'est se redire ensemble qu'on est là pour faire quelque chose par soi-même. Ça a de la valeur, quand même, ça.
Oui, alors là, je vais exceptionnellement ne pas citer quelqu'un de mon labo, je vais utiliser les travaux d'Éric Bruyard, qui, justement, a montré... Enfin, ce qu'il dit, c'est que a priori, l'IAG va pas fondamentalement transformer le rapport des élèves à l'école. C'est-à-dire que c'est des machines à enseigner, comme il dit, et donc lui, il a travaillé sur la calculatrice, sur l'apparition de l'internet, puis ensuite de Wikipédia, et après, voilà, ce qu'il dit, c'est que ça va pas changer fondamentalement le rapport des élèves à l'école, puisqu'en fait, on va avoir les mêmes problématiques qui vont se mettre en évidence, avec toujours ces problématiques liées au rapport au savoir et aux inégales distributions des apprentissages.
Et à la motivation intrinsèque, c'est là aussi ce que ça veut dire. Le plaisir d'apprendre, on va conclure avec vous, Anna Lombert, sur revaloriser cette activité très humaine et très enfantine aussi. Et tous les enfants apprennent, hein, même si c'est pas à l'école, il y a plein d'endroits aussi où on peut cultiver sa curiosité.
Exactement, oui. Je pense qu'une des questions que ça pose, c'est que ça nous invite en retour à interroger aussi les valeurs qui sont les nôtres dans ce système scolaire, qui sont peut-être pas toujours les bonnes. C'est-à-dire que, bah, justement, la question, c'est celle du désir avant tout. C'est-à-dire comment susciter ce désir de faire par soi-même, de produire quelque chose de singulier. Comment valoriser cette singularité, en fait, des productions plutôt que de soumettre tout le monde à des espèces de règles universelles, etc. Et donc, en fait, comment transformer aussi nos manières d'enseigner.
Bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci à Jean-Pierre Martin de nous avoir parlé de la curiosité. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Anne Albert, j'ai absolument plus devant les yeux, de la bêtise artificielle, et c'est publié, dites-moi, c'est écrit très très petit chez Alia, voilà, l'éditeur, très belle couverture d'ailleurs. On aura l'occasion de reparler de cette question. Merci à Pauline Limousineau qui est adjointe à la production d'Être et Savoir pour ce numéro, et à François Richer à Technique et à la réalisation.